Vous écoutez
RMC.
Il est 6h30 sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Début ce matin des référendums d'annexion russe en Ukraine dans 4 régions et dans la désorganisation totale, vous l'entendrez. La réforme des retraites, déjeuner, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne aujourd'hui pour parler de la méthode. Et puis les Bleus qui s'imposent 2-0 en football contre l'Autriche avec encore des blessures qui inquiètent d'ailleurs Didier Deschamps.
La Russie lance officiellement ce matin ses référendums dans 4 régions d'Ukraine.
4 régions qu'elle occupe, qui ne sont pas russes, mais ce sera tout l'objet d'un référendum décrété par les Russes pour ou contre cette annexion, comme nous le décrit Cyprien Pézeril pour RMC.
Des bulletins de vote imprimés à la hâte. Et une question, êtes-vous pour ou contre l'intégration de votre territoire à la Russie ? En apparence, une élection en bonne et due forme, donc il y a des habitants de ces régions ukrainiennes déjà bien décidés. Je suis pour la Russie, alors oui, j'irai voter. La Russie est grande, c'est l'avenir. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Mais en réalité, ici, il reste surtout les pro-annexions. Les autres ont fui leur région, déjà contrôlée par la Russie. Pour les scrutins, pas d'observateurs internationaux et presque aucun bureau de vote. Bref, une mascarade pour le gouverneur ukrainien d'une des régions consultées.
Ce pseudo-référendum, ça sera du porte-à-porte. Et l'objectif n'est pas de savoir qui est pour ou contre l'annexion, mais uniquement de recenser les hommes et les enrôler pour en faire de la chair à canon.
Et les résultats, probablement déjà écrits par le Kremlin, ne font aucun doute. En 2014, l'annexion de la Crimée avait, au regard du droit russe, été approuvée à près de 97%.
Alors pourquoi des référendums ? Pourquoi maintenant, après 7 mois de guerre, d'autant que la communauté internationale parle de parodie ? Eh bien écoutez les explications du spécialiste militaire Michel Goya.
Le principe de ces référendums, c'est de faire de ces territoires des territoires russes. Ils sont ukrainiens, mais maintenant ils deviennent russes. En changeant de statut, on l'oblige à changer les règles du jeu de ce conflit. Et ça permet à la Russie de sanctuariser d'une certaine façon ces territoires en disant, voilà, maintenant vous attaquez ce territoire, vous attaquez maintenant la Russie. Et donc si vous attaquez la Russie, c'est aux déclarations de guerre obligatoires. Et c'est là toutes les forces de la nation sont mobilisées pour défendre le sol de la patrie, entre guillemets.
Voilà, et prise de parole en russe hier soir du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour appeler les Russes à protester contre la mobilisation officiellement de 300 000 réservistes qui a été décrétée par Vladimir Poutine. L'extrême droite faisait le show, si on peut dire ça comme ça, hier soir à Rome en Italie pour la fin de la campagne des législatives. La coalition menée par Giorgia Meloni, admiratrice de Mussolini, est donnée en tête des derniers sondages à 25%. Elle a assuré qu'elle était prête à gouverner avant le vote dimanche pour 47 millions d'électeurs italiens. Chez nous, en France, les discussions continuent sur les retraites, avec ou sans passage en force, c'est toute la question. Avec tout à l'heure à la mi-journée, donc ce déjeuner entre le président Emmanuel Macron, pour qui c'est une nécessité, et la première ministre Elisabeth Borne, qui n'a pas réussi à convaincre cette semaine les partenaires sociaux et les groupes parlementaires, comme nous le dit Pierrick Bonneau du service politique à RMC.
Elisabeth Borne pousse pour la concertation. C'est une prudente de nature, assure un parlementaire bien informé. Les passages en force, c'est pas son truc. Si la première ministre semble d'accord avec le président sur la nécessité de réformer rapidement le système des retraites, elle insiste ces derniers jours sur sa volonté de débat et de dialogue. Alors quelle méthode sera choisie par l'exécutif ? Quand on lui parle retraite, Elisabeth Borne se fige un vrai masque de cire, raconte un sénateur qui l'a vu en milieu de semaine. Moi je crois surtout qu'elle attend la feuille de route du patron, ajoute un conseiller, car c'est bien de l'Élysée que la décision sera prise. Il n'y a aucun rapport de force sur ce sujet. Elle confie un proche d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne ne s'opposera pas à la décision du chef de l'État sur une question si sensible. Elle compte bien rester à Matignon.
Et ne manquez pas, lundi matin, mon invité exceptionnel, ce sera la première ministre Elisabeth Borne qui répondra non seulement à mes questions, mais aussi aux vôtres, bien sûr. Vous pourrez l'appeler au 3216 pour l'interpeller, mais dès à présent, vous pouvez nous envoyer vos questions standard@rmc.fr. Et donc Elisabeth Borne, 8h15, 9h lundi matin sur RMC et BFM TV.
Et pendant ce temps, les jeunes se mobilisent sur ce qui est urgent selon eux, à savoir le climat. Ils sont appelés à ne pas aller en cours aujourd'hui. C'est le mouvement de la Suédoise Greta Thunberg pour dénoncer le manque de mesures face à l'urgence climatique. C'est un mouvement mondial. Sacha, par exemple, manifestera à Toulouse en fin de journée.
Les événements actuels de cet été nous ont montré vraiment qu'il y avait une urgence climatique et que la sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur étaient des événements qui arrivent actuellement tous les étés, tous les ans et qui sont dangereux et qui menacent réellement notre existence.
Et la gendarmerie nous apprend ce matin que 48 personnes soupçonnées d'avoir allumé des incendies ont été interpellées cet été en France. 12 déjà condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison. Cette affaire, encore dans une crèche du groupe People and Baby à Lyon. On en parlait il y a 3 mois déjà après la mort d'un bébé empoisonné par une employée. Et on en reparle cette fois pour un incendie qui a pris, c'était mardi, dans une crèche du 4e arrondissement lyonnais. Les 2 employés de cette crèche ont été retrouvés à l'extérieur, dehors donc, alors qu'à l'intérieur, il y avait 6 enfants. Il n'y a heureusement pas de blessés, mais les parents s'interrogent sur la sécurité dans ces établissements. Ils témoignent avec Vincent Chevalier, écouté à Lyon pour RMC.
Sa fille fréquente cette crèche depuis plusieurs mois. Mardi, elle reçoit un coup de téléphone.
La police qui m'a appelé et qui m'a demandé de venir récupérer mon enfant en me prévenant qu'il n'y avait rien de grave, mais qu'il fallait que je vienne.
Sur place, elle apprend le déroulé des événements. Rien de rassurant.
On s'inquiète parce qu'on se demande enfin qu'est-ce qui se passe dans cette crèche. En fait, on ne comprend pas qu'il y ait autant d'inadvertance.
C'est la première fois qu'il se passe quelque chose de grave, mais des parents ont déjà interpellé la direction.
Depuis quelques mois, c'est compliqué. Il y avait beaucoup de turnover, des gens qu'on voit une journée, dont on sait à peine le prénom. Il y a eu une période très compliquée où j'ai honnêtement failli partir.
Suite à cet incident, cette maman a aussi été choquée par le double discours de l'entreprise sur place.
On me dit que les référentes sont bien conscientes qu'elles ont fait une erreur, qu'elles s'en mordent les doigts.
Mais dans le communiqué officiel,
c'est la faute à pas de chance. Ils sont dans la réglementation. Au lieu de prendre leurs responsabilités de manière adéquate, et ben en fait, on a l'impression d'être rien pour eux. Ils minimisent complètement ce qui s'est passé.
L'établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pendant 3 mois, le temps de l'enquête. Illégitime, selon People and Baby, qui a déposé un recours.
Je vous signale cette grève dans les transports aujourd'hui à Marseille. Elle s'annonce très suivie à la RTM. C'est un mouvement de la CGT et Force Ouvrière pour dénoncer le manque d'effectifs. Seulement 1 bus sur 3 en moyenne ce matin aux heures de pointe. Une bonne et une mauvaise nouvelle tiens, pour l'équipe de France de football. La bonne nouvelle, c'est que les Bleus ont gagné 2-0. C'était hier soir contre l'Autriche et qu'ils sont toujours en vie dans la Ligue des Nations. La mauvaise, c'est qu'il y a encore de la casse avec les blessures de Koundé et Maignan, d'ores et déjà forfait pour le match de dimanche au Danemark, selon le sélectionneur Didier Deschamps, donc, qui s'en inquiète.
Les raisons, forcément, c'est l'accumulation, le peu de temps de récupération, mais bon. Les joueurs sont soumis à ça. Voilà, y a pas un match où il y a leur entraîneur en club ou moi qui va leur dire non, celui-là, tu peux jouer tranquille et il faut toujours gagner. Donc, forcément, on n'était pas épargnés. Et là, d'en avoir 2 de plus, oui, ça fait beaucoup. J'espère que dans 2 mois, si je peux en avoir aucun, ce serait parfait.
But de Mbappé et Giroud hier soir. Giroud qui n'est plus qu'à 2 unités, comme on dit, du record de Thierry Henry.
Et puis le quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
18h20, en fin de journée, sur RMC Découverte, les pronostics de la Dream Team. Ce matin, notez les le 11 et le 5. Le 11 en favori, Grâce du Dijon. Le 5 en outsider, Galia Soto.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Haro sur les résidences secondaires. Les habitants locaux se mobilisent contre l'envahisseur, le plus souvent parisien. Alors, faut-il des quotas de résidences secondaires? Je vous attends au 32-16 autour de cette question, alors que des manifestations se multiplient contre les effets de l'arrivée de ces néo-ruraux, ces nouveaux habitants au niveau de vie plus important. Venez donc témoigner, débattre de ces nouvelles inégalités. Je vous attends au 32-16.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, et comme tous les jours, RMC PJ. Chaque matin, une histoire repérée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, direction la Bourgogne, avec l'affaire d'une médecin mythomane qui a encore frappé Guillaume Biais.
Oui, cette fois, c'est l'université de Bourgogne à Mâcon qui a détecté la supercherie sous une fausse identité et avec de faux documents, faux diplômes. Samantha Avril, de son vrai nom, a tenté d'intégrer un master pour devenir professeur d'université, mais son CV et ses relevés de notes ont suscité des doutes. Vérification faite, elle avait bel et bien détourné le contenu d'un autre dossier. C'est donc une nouvelle mise en cause pour cette femme de 36 ans qui est déjà poursuivie pour des faits bien plus graves. Il y a 2 ans, elle était parvenue à se faire passer pour une médecin généraliste dans un centre de santé de Montceau-les-Mines. Elle a exercé durant 4 mois en recevant des malades, en prescrivant des médicaments. Des familles ont porté plainte car 2 de ses patients sont morts. À l'un d'eux, elle avait conseillé d'arrêter son traitement quotidien pour des problèmes cardiaques. L'avocat de Samantha Avril reconnaît que sa cliente est malade. Elle avait déjà été diagnostiquée schizophrène et hospitalisée. Le monde médical, elle connaît. Avant de se faire passer pour médecin, elle avait tenté de devenir infirmière, toujours avec de faux diplômes. Là encore, elle avait été démasquée et poursuivie.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42, très bon réveil à tous.
C'est votre avis.
C'est votre avis, je vous le demande ce matin, parce que vous les voyez arriver, vous nous voyez. Il faut quand même être un petit peu honnête, puisque je vous parle depuis le studio d'RMC, qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. Vous les voyez arriver à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille ou à Toulouse, et sur la côte, bien sûr. Depuis le Covid, les Franciliens sont nombreux à quitter l'Île-de-France pour aller s'installer ailleurs. Le problème, c'est que leur niveau de vie est en moyenne 15% supérieur à celui des habitants locaux. Et c'est un problème parce que les prix de l'immobilier montent et que beaucoup d'habitants locaux sont poussés dehors. Écoutez cette habitante de l'Île-Dieu.
La complexité, c'est pour les habitants de se loger. On a des gens qui ont passé l'été au camping, faute de maison. On a des familles qui partent. Ouais, c'est la catastrophe. Ce qu'on aimerait que les gens mesurent, c'est que par leur capacité, leur pouvoir d'achat très fort, ils mettent en péril les personnes qui habitent ces territoires-là, très demandées, très, très convoitées. Ils ont un effet très, très dangereux pour ces territoires dans lesquels ils ont envie d'habiter.
Alors comment faire ? Comment faire ? Est-ce qu'il faudrait instaurer des quotas, créer un statut de résident local ? C'est la question ce matin au 32-16 et il y a Sylvie qui est déjà là avec nous. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Sylvie, vous habitez où exactement ? En Vendée, c'est
Alors, en Vendée, au Sable d'Olonne.
Au Sable d'Olonne, on aura d'ailleurs le maire des Sables d'Olonne tout à l'heure parce que il alerte. Vous, quelle est votre situation ?
Alors moi je suis locataire, j'essaye depuis un an désespérément d'acheter un terrain pour construire. Oui. Le problème c'est que je travaille sur les sables et que pour trouver un terrain accessible au niveau tarif, il faut que je m'éloigne à plus de 30 km. Ouais. Les sables sont pris d'assaut par des résidences secondaires. Votre collègue, l'émission juste avant, expliquait qu'au Sable d'Olonne, il y avait avant, il y a quelques années, 75% de résidences secondaires pour 25% de résidences principales.
Et ça s'est inversé.
Et ça s'est inversé.
Ça s'est inversé.
C'est une catastrophe.
Sylvie, vous travaillez dans quel domaine ?
Je suis agent d'accueil dans une usine.
D'accord. Et en fait, vous avez toujours vécu au Sable d'Olonne ou vous y êtes arrivé récemment ?
Non, j'ai toujours vécu au Sable d'Olonne en location. Le problème, c'est que pour accéder à la propriété, les prix ont pris une flambée phénoménale et c'est inaccessible pour nous.
Et pour les locaux, et avec leur salaire, c'est inaccessible parce qu'aujourd'hui, ce sont donc des résidences secondaires ou des gens qui fuient Paris ou la région parisienne, mais avec toujours beaucoup de télétravail, donc des salaires qui restent des salaires plutôt parisiens. Sylvie, j'imagine que vous en parlez autour de vous. Qu'est-ce que vous imaginez comme solution ? Est-ce que vous vous dites, tiens, oui, il faudrait des quotas ou alors il faudrait, accéder à la propriété, témoigner ou prouver qu'on vit là vraiment à l'année ?
Alors la mairie des Sables est en train d'essayer de mettre en place un programme qui permettrait aux actifs de devenir propriétaires de leur maison sans être propriétaire du terrain. Le terrain appartiendrait à la mairie.
Une sorte de bail emphytéotique ou de location. Voilà. Mais quand c'est vous dites, ça. C'est intéressant parce que moi j'ai dit résident, vous avez répondu actif. Et je trouve ça très intéressant votre manière de dire. C'est-à-dire vous dites pour les actifs, c'est-à-dire qu'en fait vous considérez que ceux qui vivent là à l'année comme vous, ils ont un boulot, ils bossent et ils s'en
on
sortent pas.
On fait vivre la ville et on ne peut pas y habiter.
Et donc évidemment c'est ce phénomène qui est très dur. Sylvie, il y a Benoît qui nous appelle. Alors là pour le coup du Vaucluse. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour Pauline.
Benoît, vous êtes dans le coin de Carpentras, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Je suis au pied du Mont Ventoux, tout à fait.
Vous êtes au pied du Mont Ventoux, mais si j'en crois ce que vous avez dit au Standard à Quentin, vous êtes belge et vous avez acheté dans le Vaucluse. Ils vous ont accueilli comment du coup les locaux ?
Voilà, donc moi je ne suis pas francilien, je suis belge, j'ai acheté une seconde résidence dans le Vaucluse.
Oui.
Je pense que donc j'ai vu une évolution donc récemment où les étrangers, ou en tout cas les non-locaux, étaient moins bien accueillis, alors que je trouve que les locaux font quand même vivre fortement l'économie locale. Moi j'ai acheté un vieux mas là-bas, je l'ai rénové avec des entreprises locales, j'ai acheté dans les commerces locaux le mobilier, tout ce qu'il faut pour ameubler le mas. Tout ça, ça fait des dépenses, ça fait vivre le commerce local. Moi, je mets cette maison en, donc en location saisonnière également, où on a des touristes qui viennent avec un certain pouvoir d'achat, qui viennent dépenser dans les commerces. Donc, ça aide l'économie locale. Au-delà de ça, moi, pour ce masque, j'ai des entreprises de nettoyage, j'ai un jardinier qui vient. Donc, tout ça, donc je trouve que les locaux devraient plus voir et profiter en tout cas donc, de cette manne intéressante avec des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important, pouvoir profiter également, eux, de cet apport donc, dans l'économie
locale. En fait, vous trouvez ça assez injuste, quoi. Vous trouvez ça assez injuste.
Totalement injuste.
Les chiffres globaux donnent raison quand même à Benoît. C'est-à-dire que grosso modo, l'impact de l'économie des résidences secondaires, il est positif.
Oui, mais attention.
Il y a quand même énormément d'hypocrisie. D'abord, tous ces gens qui se plaignent, il faut bien voir qu'il y a quand même des propriétaires qui sont bien contents de vendre à des prix très élevés. Eux, on n'en parle pas, le pognon qui se met dans les poches. Les collectivités locales, elles sont bien contentes de voir les recettes fiscales rentrer.
Oui, mais attention. Et les commerces locaux, globalement, Emmanuel,
ils sont
très
contents.
Moi, je voudrais que Sylvie, elle puisse aussi défendre son point de vue. Parce
d'accord.
Que la réalité, quand même, c'est que par exemple, quand vous êtes parents, quand vous avez vos enfants sur place, que bah il y a des classes qui ferment parce que les gens viennent uniquement pour le week-end.
Construire. Les Parisiens ils peuvent plus acheter à Paris, donc on fait quoi? On les empêche d'acheter en province et
c'est
ils
pas
peuvent
faux.
Pas acheter à Paris. Donc il y a qu'un seul sujet, c'est construire. Mais après il y a des gens qui vont nous dire ah bah non on peut pas construire parce que c'est pas beau, etc.
Non, ce qui est vrai, donc, ce qui est vrai c'est que les prix d'immobilier à Paris,
de logements
en fait les familles elles fuient Paris.
Mais partout c'est le même problème.
Mais en même temps elles vont pas complètement.
C'est le même problème. Il y a pas assez de logements.
Sylvie revenez parce que là sinon ils ont pris le pouvoir. Allez-y Sylvie, quand vous entendez quand même le point de vue de Benoît, de ce point de vue-là, est-ce que vous l'entendez? C'est-à-dire,
Le problème, c'est que ça reste les résidences secondaires restent toujours des résidences secondaires, donc il y a quand même des moments où les résidences sont vides. Certes, on fait appel à des locaux pour le nettoyage, le jardinage, etc., mais ça reste très épisodique. Nous, on habite vraiment à l'année ici, on travaille ici, on a nos familles et nos enfants scolarisés et on est obligé de s'expatrier en travaillant dans une ville qui devient désertique ou qui est remplie de personnes âgées. Voilà, il y a très peu d'actifs.
Les retraités ou les résidences secondaires. Merci à Sylvie, donc au Sable d'Olonne, et à Benoît à Carpentras d'avoir ainsi posé le décor. Emmanuel, on a compris dans quel camp vous étiez quand même.
Non, c'est que je trouve qu'on ne pose pas bien le problème. Je comprends les difficultés des gens qui peinent à se loger, mais foutre ça sur le dos des Parisiens, c'est vraiment quand même une façon très bouc émissaire de régler le problème. Le problème, c'est que partout en France, on manque de logements, on ne construit pas assez. Donc construisons.
Il est 6h49 sur RMC, vous l'aurez compris. Ce matin, le débat est lancé, le 32-16, vous êtes ouvert.
RMC, Apolline Matin.
Dans un peu moins de 9 minutes, il sera 7h et je vous donne le programme de la suite d'Apolline Matin. D'abord, on va rire avec Arnaud Demange, notez bien, 7h20 et 8h20. Et puis, autre rendez-vous à 7h40, l'affaire Diallo Amraoui. Maître Romain Ruiz, qui est l'avocat d'Aminata Diallo, sera elle-même qui est mise en examen dans cette affaire, sera l'invité du jour. Sa cliente est poursuivie pour association de malfaiteurs, violence aggravée. Mais pour lui, Aminata Diallo n'est pas coupable. Il sera donc avec nous ses explications juste après le journal de 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Et à 6h52, le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Il est éclaboussé par un scandale de chantage politique. Il s'est mis hier en retrait de ses fonctions de président de la métropole de Saint-Étienne.
Oui, ce qui veut dire qu'il laisse la main à ses adjoints et qu'il ne présidera plus, jusqu'à nouvel ordre, les assemblées de la métropole. Mais il précise qu'il reste tout de même président de cette instance et bien sûr qu'il reste pour l'instant maire de Saint-Étienne. Ce n'est donc qu'une mini-concession qu'il fait à ceux qui demandent son départ. Et l'histoire de Gabriel Perdriau, ça reste donc pour l'instant l'histoire d'un homme qui s'accroche. Gaël Perdriau a 50 ans, il est maire de Saint-Étienne depuis 2014. Localement, il a la réputation d'être un homme assez autoritaire, mais aussi d'un élu qui a su rénover les quartiers les plus défavorisés de cette ville pauvre. Un politique qui a des ambitions nationales. Il a été élu vice-président des Républicains. Il se situe à l'aile gauche de son parti. Il dénonce la droitisation de sa formation et s'en prend par exemple à Éric Ciotti ou à Laurent Wauquiez, ce qui lui a valu finalement d'être démis de ses fonctions de vice-président LR. Au printemps dernier, il a laissé courir la rumeur qu'Emmanuel Macron allait l'appeler au gouvernement. Il commençait même à organiser son remplacement à la mairie de Saint-Étienne. Et finalement, rien ne s'est passé comme il l'espérait. Il n'a pas été nommé ministre.
Et puis surtout, il a été donc rattrapé fin août par cette affaire de sextape.
Affaire rocambolesque et nauséabonde, pour reprendre ses propres mots. Son ancien premier adjoint a porté plainte pour chantage. Il a été filmé il y a 8 ans en train de recevoir un massage d'un homme dans une chambre d'hôtel. Et il accuse le maire et son directeur de cabinet d'utiliser utiliser ces images pour le faire chanter et le neutraliser politiquement. Mediapart, on le sait, a diffusé des enregistrements où on entend très clairement le maire et son directeur de cabinet menacer l'adjoint en lui disant « Vos enfants ne s'en remettront pas de la diffusion éventuelle des images ». Depuis, Gabriel Perdriau a été exclu de son parti, il a été entendu en garde à vue, il a viré son directeur de cabinet, il a fait face à une manifestation d'employés municipaux dans la mairie qui demandait sa démission. Bref, ça tangue pour lui, mais pour l'instant, il maintient qu'il n'y est pour rien dans cette affaire et il reste donc à la tête de la 14e ville de France.
Et ce sera donc à suivre, puisque pour l'instant, il décide lui-même de se faire justice en quelque sorte et en se
de
disant...
De une petite
oh,
sanction.
Voilà, si je me mets en retrait pendant quelques temps, ça devrait passer. On verra bien, mais ça m'étonnerait. 6h54 sur RMC, les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Un cocorico ce matin, Charles, puisque c'est un Français qui vient de remporter la Coupe du Monde de Paella.
Mais oui, c'était la 3e édition de la Coupe du Monde de Paella, le World Paella Day 2022, comme on dit pour le nom officiel. Ça se déroulait évidemment à Valence, en Espagne, des chefs venus du monde entier pour revisiter à leur manière la paella. Et c'est donc un Français, le chef français Éric Gilles, qui s'est imposé. Comme nous le raconte La Dépêche, il a séduit le jury avec, attention Manu, une paella au confit de canard et aux champignons.
Oh, c'est
parfait
pas très...
pour le petit-déj.
Ah, oui.
Oui, très healthy. Alors, en fait, non, mais les candidats étaient libres d'utiliser les ingrédients.
De réinventer la paella.
Réinventer, il venait du monde entier. Par exemple, le japonais a fait une paella avec des oignons verts, du crabe chinois et des petites écrevisses. Le finlandais a opté pour du renne, des champignons et des myrtilles dans sa paella. Bon. Mais c'est donc le français, Éric Gilles, qui s'est imposé pour déguster la meilleure paella du monde. Ça se passe donc dans son resto à Barbantane, dans les Bouches-du-Rhône. Vous dégusterez la paella du champion du monde.
J'adore, c'est extraordinaire.
Magnifique. Mais on réserve.
C'est un peu de bonne guerre parce que si je me souviens bien, donc là c'est un français qui gagne la paella en Espagne. Il me semble que les Espagnols avaient gagné le championnat du monde de fromage. J'avais trouvé ça très vexant. Je me souviens de l'avoir vécu comme une humiliation personnelle. Et je trouve qu'en gagnant cette paella le sol espagnol, l'honneur est sauvé.
Et puis il y avait eu contestation. Enfin, voilà, il faudrait que la VAR vérifie pour le fromage.
On est d'accord, l'honneur
en tout cas,
est sauvé
moi,
quand même.
Oui, l'honneur est sauvé. Bon. J'ai vérifié si vous voulez tenter la paella ce week-end. Il y a aussi la paella traditionnelle parce que je vous vois bondir là.
Non, mais il y a plein, il y a des dizaines de recettes différentes.
On a fait un sondage en Espagne auprès de 4000 Valenciens justement qui ont répondu pour une vraie paella, il faut du riz, de l'eau, de l'huile d'olive, du sel, du safran, de la tomate, des haricots, du poulet. Et du lapin, voilà la vraie.
Du lapin.
Mais ça c'est la paella à Valence.
Oui,
mais
bah
il y en a plein ailleurs.
Oui.
Non, mais il y a plein.
En tout cas, il y a pas de chorizo, il y a pas de crevettes.
Au bord de la mer, on fait avec du poisson.
Et désormais, il y a donc la paella de Barbantane dans les Bouches-du-Rhône du chef. Comment est-ce qu'il s'appelle le chef?
Éric Gilles.
Éric Gilles. Et on le félicite, cocorico. Dans un instant, vous restez avec nous. Il y aura la météo, le journal de 7h et on reviendra bien sûr sur cette affaire au PSG féminin avec les témoignages d'Amraoui.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.